Une vie, une œuvre. Anita Conti est une océanographe et photographe française. Elle naît à Hermont, dans le Val-d'Oise, le 17 mai 1899 et meurt le 25 décembre 1997 à Douarnenez, à l'âge de 98 ans. Elle fut une femme du monde qui croisa des célébrités du siècle, Pierre et Marie Curie, Blaise Cendrars et Théodore Monod, ou encore le docteur Schweitzer et Léopold Sédar Senghor. Fortunée, ses parents lui avaient donné le goût des voyages, mais aussi celui de l'eau. « J'ai su nager avant de savoir marcher », se plaisait-elle à rappeler. Elle parcourt les mers, publie des reportages sur les piètres conditions sanitaires des parcs à huîtres et ses réflexions sur la surexploitation des océans. Elle passera donc la plus grande partie de sa vie sur l'eau où, plusieurs décennies avant le commandant Jacques-Yves Cousteau, elle sut défendre le milieu marin et contribuer à lancer l'océanographie alors balbutiante.
Anita Conti, pour moi et pour mes camarades, c'était d'abord envoûtant.
Une petite femme, la Dame de la Mer, un surnom qui lui a été donné par les gens de mer, mais elle aurait été jardinière, pianiste, épicière. Ça aurait été une petite femme extraordinaire de toute façon.
Elle a tellement cette capacité à décrire la vraie vie de la mer, de la pêche, du poisson, du mucus, de l'orage, des vagues, que d'abord on est emporté. Et ça donne envie de plonger dans son monde, et c'est vraiment son monde, la mer, l'océan, le corps qui s'imprègne de l'eau et de tout ça. On est là-dedans.
Une femme avec un regard, une femme avec une vision, une parole, une voix magnifique. Elle aurait pu faire du théâtre. Elle aurait eu beaucoup de succès, je pense. Une grande élocution, une grande mémoire et une générosité. L'autre était toujours plus important que elle. Elle s'effaçait pour l'autre. Elle m'a ouvert la porte. Elle m'a parlé. Elle m'a ouvert ses boîtes, ses archives. Et j'étais surpris de découvrir une vie aussi riche, un personnage aussi important, entre guillemets, parce que il y a des gens très discrets qui sont très importants aussi. Voilà, il y avait une vie avec un vrai travail, une véritable œuvre qui s'exprimait à la fois par le texte, par la photo et par le sillage, par ses marques, par sa trace. Alors, difficile une trace sur la mer pour la remonter. Très difficile.
Quelqu'un qui a, dès l'aube, eu une vision aiguisée du monde de la pêche, parce qu'elle l'a vécu, c'était pas une théoricienne, c'est quelqu'un de pratique, de terrain. Montée, elle, en 1936, sur un bateau de pêche, aller au contact, encore une fois, de la mer dans des conditions très difficiles, c'était incroyable ce qu'elle a fait.
Déjà une femme sur un bateau, c'est compliqué, une femme sur un bateau d'hommes et être la seule dans un monde d'hommes, c'est un geste quand même assez radical. Et ensuite, voilà, il y a aussi ses écrits. Donc en fait, par toute son œuvre et peut-être par toute sa vie, en fin de compte, il y a quelque chose d'une héroïne chez Anita Conti qui, sur le plan littéraire, est très inspirant.
Et que nous dit-elle ? Tiens, les bancs de Terre-Neuve ne sont plus ce qu'ils étaient. Les morues disparaissent. On ne peut pas continuer à ce rythme-là. Donc, c'est probablement l'une des premières personnes qui a vu, qui a constaté sur le terrain et qui a écrit « Attention, la mer n'est pas inépuisable. » Donc, pionnière. Parce qu'elle représente, pour tous les gens qui font de l'océanographie, hein, en France, ça représente quand même, c'est la dame, madame.
Anita Conti, la Dame de la Mer. Camille Jusot, Yvon Croisier. Laurent Giraud-Conti, comment avez-vous rencontré Anita Conti ?
Alors, pas loin d'ici, sur une péniche, à Paris, Paris-Port de Mer, je crois, disait Blaise Cendrars. Et donc, rencontrer Anita Conti, la Dame de la Mer, sur une péniche à Paris, la péniche de Jacques Rougerie, pour une architecte marin qui construit donc des habitations sous-marines, c'est pas anodin. Ça avait, déjà, là, il y avait quelque chose, il y avait une marque. Donc, on était sur le futur et Anita évoluait dans cet univers avec une. Pour elle, c'était une évidence. Et Anita m'a été présentée. Je venais de faire donc la couverture du livre « Les enfants du capitaine Nemo » où j'étais très fier d'avoir créé une image qui mêlait à la fois l'espace et la mer. Et Anita, première chose qu'elle me dit, elle m'a dit « Mais c'est comme Aristote, plancton. » Le mot « plancton », le mot « planète », c'est le même mot, « planétesse », objet en errance dans un espace. Et à partir de cette image, Anita m'a ouvert des grands yeux sur le monde maritime, avec une éloquence, avec une malice. Et elle a transformé ensuite cette évocation par une invitation à venir la rencontrer dans son appartement, qui est un petit peu comme ici, des boiseries, des vieux livres, des vieilles boîtes, avec tous les documents à l'intérieur, la mer et les livres. Ça sent bon. Parfum papier d'Arménie, un parfum qui lui est propre, qu'elle a créé, dont tout l'appartement est imprégné. Tous les murs étaient recouverts de dossiers. Tous les dossiers étaient décorés par sa main. Parfois, c'était de simples boîtes de purée mousseline, oui, c'est ça, de purée mousseline qui avait été redécorée. Et dans les boîtes, soit des manuscrits, soit des notes, soit des photos, soit des archives, des documents ayant trait au sujet qui l'intéressait. Terre-Neuve, Afrique, Sénégal, Guinée, les Terre-Neuvas, les poissons totems, la cétorine, les diassanes, etc. Enfin, il suffisait de tirer les languettes et puis les univers s'ouvraient au fur et à mesure que nous les évoquions. Et puis des objets témoins, des objets comme ici, une étoile de mer échantillonné par le prince de Monaco à la fin du 19e. Là, c'était échantillonné par Anita, donc ce qu'elle avait pêché en mer de Barents en 1939, ce qu'elle avait pêché en Afrique, des échantillonnages, du gravier, des fonds sableux dans des petites fioles, dans des petites verreries, comme ça. Et tout était à la fois scientifique, mais bricolé, avec une féminité qui posait une esthétique, une magie sur ça. Et puis Anita qui est au milieu, avec ses deux petits fauteuils, pas de place pour faire la sieste, une banette pour dormir, des sièges pour accueillir le visiteur, son siège à elle. Tout ça tenant de la cabine de bateau, de la loge de théâtre, du cabinet des curiosités. Et puis voilà, Anita au milieu, avec sa voix, avec sa parole, avec son rire.
Quelques repères biographiques. Anita Conti, née Caracocian en 1899, passe une enfance entre la mer et les livres, des ports de Bergen à Gibraltar, d'Istanbul à Perros-Guirec, de l'île d'Oléron à Athènes. « J'ai su nager avant de savoir marcher », disait-elle.
Il n'y a pas eu une première fois la mer. Anita a l'impression d'être née en mer, pratiquement. Elle est née sur un estran, on pourrait dire, entre la mer et la terre, et voilà, elle a participé aux deux.
Le fait qu'elle ait vécu de port en port, qu'elle ait épousé après en plus un diplomate, enfin il y a quand même toujours l'idée du voyage chez elle, mais je pense que ça construit. Oui, ça construit un imaginaire, voilà, je pourrais dire ça.
Mélisse de Kerangal, saviez-vous que Pierre Macorlan l'appelait « celle qui écoute parler les livres », c'était au moment où elle exerçait comme relieuse d'art au tout début de sa vie.
Là, elle est à Paris à ce moment-là. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'elle a d'abord, c'est peut-être son premier métier, peut-être même avant la photo. Je crois qu'elle a pratiqué la photo assez jeune, dès le moment où elle vit à Oléron, etc. Mais en revanche, je crois que son premier métier, ça a été la reliure d'art. Ce qui la connecte en plus immédiatement au monde des livres, au monde littéraire. Ouais.
Sa passion des livres va naître comme ça, en caressant l'objet, en le découvrant, en l'ouvrant. Et donc, elle va s'exercer à la reliure d'art, comme d'autres jeunes filles, elles s'exercent à l'aquarelle. Et donc, Anita, c'est la reliure d'art. Donc, elle va le faire d'abord pour elle, pour son plaisir, pour relier les livres qu'elle aime. Et petit à petit, elle va former des beaux objets qu'elle va exposer. et qui vont être remarqués par les bibliophiles et notamment par Pierre Macorlan, qui va être un de ceux qui va la lancer. Et donc elle va exposer à Bruxelles, à Paris, à Londres, même à New York. Ces livres vont être primés et c'est la guerre qui va interrompre cette passion.
En 1935, Anita Conti rencontre Édouard Le Danois, directeur de l'Office scientifique et technique des pêches maritimes, ancêtre Ifremer. Il la remarque et l'engage tout de suite pour contribuer au lancement du premier navire océanographique français, le président Théodore Tissier. À cette époque-là, les connaissances sur la mer sont réduites, l'océanographie est balbutiante. Que savait-on de la mer dans les années 1930-1940?
Édouard Le Danois, moi, je suis à l'époque, avant, il est directeur ou chercheur, je ne sais plus, à Roscoff. Et je présume que les parents d'Anita connaissent ce personnage et Anita le rencontre toute jeune fille. Je pense qu'Édouard Le Danois est attentif, voit que cette jeune fille est curieuse du monde maritime. Elle collabore comme ça, d'une manière, comme peut le faire un enfant, aux échantillonnages, elle s'embarque avec un pêcheur et un chercheur, elle suit, elle est obéissante, elle est studieuse. Et donc voilà, je pense que les premières rencontres se sont faites comme ça. Je pense que elle retrouve Édouard Le Danois officiellement dans les années 30, et Édouard Le Danois la retrouve et l'engage à l'Office des pêches. Ça me permet de dire que le parcours d'Anita est toujours en marge. Anita, pour des raisons X encore, mais là je pense que son père a eu une influence, elle n'a pas été autorisée à faire des études, j'en suis certain aussi. En tout cas, elle n'a pas fait d'études, ça c'est clair et net, elle n'a aucun diplôme. Donc voilà, il fallait que ce soit quelqu'un qui la connaisse un peu, qui ait confiance en elle, qui décide de l'engager à un poste quand même assez, qui méritait quand même des compétences ou des diplômes qu'Anita n'avait pas.
François Sarano, vous êtes vous-même océanographe plongeur. À quoi ressemblaient ces premières tentatives océanographiques avant la plongée sous-marine, le nez hors de l'eau?
Alors, le nez hors de l'eau, donc on essayait de comprendre ce qui se cachait sous la peau de l'océan, de l'autre côté du miroir de la surface, ou de la tempête houleuse. On essayait de comprendre cette vie en y piochant hein, au hasard. On envoyait des nasses, on envoyait des filets, on envoyait des bennes, et on ramenait une toute petite proportion de ce qu'on pouvait capturer. Hein. Mais c'était mort. Ce début de l'océanographie a permis de décrire des formes, de décrire des espèces, mais n'avait pas véritablement idée de la vie. Ce qu'apporte Cousteau, ce qu'apporte la plongée sous-marine, ce qu'apporte la pénétration du milieu marin, c'est que tout d'un coup, on comprend qu'une espèce ne se limite pas à sa morphologie, très bien décrite encore une fois par ceux qui pêchaient en aveugle, mais qu'une espèce se définit par les relations qu'elle tisse avec les autres espèces et avec le milieu. Quand je plonge au milieu de mes amis cachalots aujourd'hui, ou avec les requins, tout d'un coup, je connais, parce que je passe une partie de ma vie avec ces animaux. Et c'est complètement différent. Aucun océanographe qui n'avait pas mis la tête sous l'eau ne pouvait le comprendre. Mais, encore une fois, ça a permis d'avancer. Et toute l'histoire des sciences, de l'océanographie, c'est ça, c'est avancer pas à pas, même si les pas paraissent aujourd'hui dérisoires. Et puis, tout était difficile. Vous savez, quand on fait un prélèvement sur un bateau qui bouge, avec les produits qui basculent, avec tout est compliqué. Chaque donnée est arrachée à l'océan pour essayer de savoir un petit peu plus, de comprendre un petit peu mieux. Donc, c'est une époque héroïque.
Laurent Giraud-Conti, vous publiez chez Payot en 2018 des carnets inédits d'Anita Conti, carnet viking, 70 jours en mer de Barents, juin-septembre 1939. Quel est son état d'esprit lorsqu'elle embarque pour la première fois avec les terres nevasses?
En l'occurrence, Anita là, s'embarque non pas pour le plaisir ni pour la curiosité, elle s'embarque pour l'Office des pêches. À savoir qu'en 1939, le navire de recherche est bloqué à quai pour des raisons d'avarie, que le gouvernement de l'époque n'a pas les moyens de faire réparer le bateau. Donc Anita détourne l'objectif en se faisant embarquer à bord d'un navire de pêche. Qu'est-ce qu'elle fait à bord? Elle fait les relevés. TPS, température, profondeur, salinité. Elle fait l'échantillonnage des poissons. L'expertise du poisson, à savoir que est-ce qu'il est en bonne santé, est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce que les estomacs sont pleins, est-ce qu'ils sont vides, est-ce que ça veut dire est-ce que les poissons ont leur nourriture ou pas, est-ce qu'ils ont faim, est-ce qu'ils sont... Après, parce que c'est Anita qu'elle a ce regard, elle prend des notes, elle photographie. Ça, on ne lui demande pas. Elle observe, on fait ci, on fait ça, les hommes se comportent comme ci, les hommes se comportent comme ça. De temps en temps, elle parle un petit peu d'elle au milieu de ces hommes. Bon, voilà, elle déborde largement sa mission, elle observe. Le mot Terre-Neuvas, maintenant, est-ce que beaucoup de gens savent encore ce que c'est? C'est, bon, ça situe géographiquement, mais bon, c'était les pêcheurs de morue. On traversait l'Atlantique, soit l'Atlantique Nord pour le Spitzberg, soit vers l'Islande, ou soit vers Terre-Neuve, au large du Canada. En fait, on touche à l'aristocratie de la mer, c'est des marins qui partaient 4, 5, 6 mois, 3 mois, et donc c'était l'élite de la pêche. On compare souvent les Terre-Neuvas aux mineurs de la mer, mais il y avait une forme d'orgueil qui se posait sur ce métier parce que c'était valorisant. Comme ça, il y avait une sorte d'aventure. C'est un métier qui s'auréole d'une dimension d'aventure qui est énorme, énorme, dont on a du mal à se représenter maintenant ce que ça suppose. Chalutier à vapeur, la radio est à peine, on la maîtrise à peine. Il n'y a pas de sonar, évidemment. Enfin, voilà, on part avec les hommes qui vont travailler pendant ces 3 mois sur le pont, à l'air libre. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il vente, les hommes se relaient pour travailler, pour pêcher, pour traiter le poisson. On pêche et on traite le poisson sur le pont. C'est la première fois qu'une femme embarque comme ça aussi longtemps. Il y a quelques journalistes qui ont fait quelques journées sur un bateau, mais là, c'est la première fois.
J'ai très vite compris, il ne faut pas embêter les marins, alors je m'applique simplement à ne jamais avoir faim, jamais avoir soif, jamais avoir chaud ou froid, jamais avoir le mal de mer, jamais demander à se laver, disait-elle.
Ça, c'est dans Racleur d'océan, non? Ouais, ça, je me souviens très bien de cette phrase.
Maëlys de Kerangal, écrivain.
Voilà, elle est une femme parmi des hommes à ce moment-là. Et je trouve que ça dit beaucoup, c'est-à-dire que pour se faire accepter, en fait, elle doit quasiment devenir comme eux. Et ça commence, il ne faut pas embêter les marins. C'est-à-dire qu'elle est... C'est une femme, je crois, assez petite, assez menue. C'est pas une baraque, Anita Conti. Et elle a une quarantaine d'années, elle est prise en photo sur un des bateaux. Elle est très belle, avec un chemisier blanc magnifique, une très belle lavalière, etc. Bon, là, quand elle est en campagne de pêche, elle est vêtue comme un marin. Il y a des photos d'elle assez... où elle est en vareuse, avec ses grands pantalons. Et voilà, et de toute façon, il faut qu'elle se couvre parce qu'il y a le froid. Et en fait, il faut qu'elle épouse complètement leur terrain. C'est comme un terrain pour un ethnologue, vous voyez, qui va vivre au milieu de ceux qui l'étudient. Et elle se convertit totalement à leur mode de vie. Là où, quand même, elle se décolle un peu d'eux, c'est justement pour les photographier et évidemment pour prendre des notes. Mais sinon, elle les interroge pas. C'est un monde forcément assez taiseux. Et puis, il y a aussi, peut-être, alors je sais pas comment ça a pu jouer, mais la tradition d'une femme à bord, qui est une femme à bord, c'est toujours dans l'espèce de mythologie de la mère un problème. Et donc, il y a l'idée qu'elle doit s'effacer et on sent quand même que dans ces clichés, pour autant, elle reprend la main. Parce que c'est des clichés, je trouve, dont les points de vue sont notamment voilà, sur ces photos-là où le noir et blanc est quand même extrêmement altier. Et c'est des photos aussi d'une grande beauté plastique. On sent qu'elle reprend la main. Mais pour arriver à faire ces clichés, c'est évident qu'elle a dû... c'est un travail d'infiltration, c'est un travail de terrain. Oui, non, mais je me souviens de cette phrase, j'avais été sidérée, je me disais incroyable, parce qu'être la seule femme sur un bateau de Terre-Neuve, il faut pas avoir froid aux yeux, il faut pas avoir peur, et en même temps, pour gagner la confiance de ces hommes et pas être un sujet d'hostilité, un problème justement, il faut savoir modéliser une présence, et je pense que ça, elle était championne pour ça, c'était même ça a été son grand talent, son génie presque.
Je me dis qu'elle devait quand même vraiment avoir un sacré tempérament parce que...
Claire Nouvian, présidente de l'association Bloom.
Parce qu'évidemment, c'est pas comme si ça avait disparu depuis, mais il y a une forme de machisme très très clair dans ces métiers manuels et masculins. Et donc se faire sa place parmi cet environnement qui est assez brutal, au sens pas forcément méchant, mais au sens brutal des manières, ça devait être quand même quelque chose. Et puis en même temps, elle devait être leur égérie, leur amoureuse, leur maman, leur petite sœur, leur femme, leur cousine, enfin tout ça à la fois. Donc j'imagine qu'elle devait avoir des liens très particuliers et très forts en fait avec tous ces hommes qui passaient quand même beaucoup de temps loin de leur famille. Donc une présence féminine, ça devait être un événement exceptionnel pour eux. Et puis bon, revenons à des choses très matérielles, le confort devait être plus que sommaire, hein, parce que déjà être en mer dans des conditions de mer formée, c'est quand même technique, hein, faut pas avoir le mal de mer déjà tout bêtement. Et puis la mer, ça veut dire qu'on a tout le temps des vêtements humides, c'est aussi cet inconfort tout bête et méchant, mais qui est dur. Alors on s'y habitue, hein, être dans l'humidité permanente, mais c'est dur, ça bouge. Puis les odeurs de poisson, je connais peu de gens qui sont pas malades en fait. Donc ouais, ça devait être des conditions qu'on a du mal à se représenter.
Ce que ces images disent...
François Sarano, océanographe.
Celle-ci en particulier, où on voit l'un des pêcheurs qui la regarde, elle qui photographie, c'est qu'il y avait une relation forte, très forte. Elle s'intéressait bien aux poissons, à la pêche, à son boulot. Hein. C'est une océanographe qui travaille pour l'Institut des pêches maritimes. Mais ce qui ressort de ces images, c'est la vie des hommes. C'est un métier dur, c'est un métier qui unit, c'est un métier où on fait corps, l'équipage et le capitaine. C'est ça qui ressort de ces images, la force du noir et blanc aussi, formidable ces images. Qu'est-ce que je vois? Je vois des hommes qui prennent un paquet de mer, je vois un pont de bateau balayé par une énorme vague, je vois des gens cirés qui sont à la peine, je vois des montagnes de poissons, je vois du bateau en bois, toutes choses que... Je pense même les pêcheurs actuels n'imaginent plus. Un autre monde, une autre relation à la mer. Hein. Aujourd'hui, on est avec des ponts couverts, des bateaux légers, en plastique, confortables. Un autre monde.
Alors sur la première image, alors c'est vrai que les photos d'Anita Conti sont extraordinaires. Alors c'est à la fois un matériau ethnographique extraordinaire et en même temps bien sûr un matériau artistique fascinant. Là sur cette première image, les hommes sont photographiés de dessus et en fait ce que l'on voit c'est que leur corps est complètement recouvert par le poisson et eux-mêmes ennoyés dans les poissons quoi. Vu de dessus, ce que l'on voit c'est les corps argentés des poissons un peu plus clairs et puis ces silhouettes un peu noires qui sont complètement immergées dans la pêche.
Moi je vois le grouillement de l'eau, le grouillement des poissons, le grouillement des cordages, des agrès, on dit plus globalement. C'est une pelote de laine où tout est emmêlé, pour moi. Après, un technicien, il pourra dire, bon voilà, là on est sur le pont, il y a les parcs avec les goulottes, il y a les parcs avec le poisson qui vient d'être pêché, il y a le parc avec le trancheur, il y a les parcs avec les ébreuilleurs qui enlèvent les breuils, qui sont les tripes. Il y a les laveurs, et après, il y a le gogotier, il y a les paniers, on va amener ça dans la cale pour le saler. Il y a les treuils, il y a les potences, on peut tout décrire, techniquement, tout est posé. Mais quand on voit ça, quand on ne sait pas, et on est beaucoup à ne pas savoir, c'est un grouillement. Le grouillement de la vie énorme, je dirais Anita. Là, c'est une photo, donc on est en hauteur, au-dessus des hommes, Anita est dans les agrès. Elle se penche, on la voit avec son relais flex, format 6-6, et elle prend les marins dans la morue, mais jusqu'au cou, pratiquement. Et il y en a un qui relève la tête, qui permet de donner tout d'un coup un visage à ce grouillement énorme. Quoi. Et on voit ces morues gigantesques. C'est ahurissant.
Après le Viking, elle s'embarque pour un deuxième voyage dans le ventre de la pêche auturière, sur le bois rosé, Quelle différence entre ces deux voyages, Laurent Giraud-Conti?
Il y a plusieurs différences. Il y en a une, la première, c'est qu'Anita n'a plus de mission officielle à partir des années 50. Elle n'est plus rien pour personne. Elle a simplement une réputation. Et donc, elle réussit à avoir les autorisations d'embarquer à la fois par l'armateur, par la marine marchande, etc. Et aussi, surtout, un éditeur qui montre son intérêt sur ce projet. Et donc, elle embarque en juillet 52 sur le Bois Rosé de Fécamp, à nouveau, pour 3 mois en mer, non plus au nord, en mer de Spitzberg, mais sur Terre-Neuve et la mer de Labrador, etc. Et elle va ramener donc ses notes qui vont devenir Racleur d'océan, qui sera le premier livre publié en 53 aux éditions André Bonne à l'époque, qui va être primé tout de suite par le prix des Vikings. Et un livre qui a un gros succès à l'époque et qui fait un choc parce que, d'abord, une femme, encore, évidemment. Ensuite, l'écriture de ce livre. Il y a un rythme, elle nous emmène, il y a ses visions qu'elle plaque, ses métaphores qui permettent à la fois à un marin, à la fois à un poète, à un philosophe ou à une personne qui n'est pas avertie, de comprendre de quoi il s'agit. Quand on remonte le chalut, on remonte l'inconnu. C'est une phrase qui était très très éloquente. Remonter le chalut, c'est remonter l'inconnu. Ça a une portée qui est philosophique, même, je trouve, qui est magnifique. Un navire sur la mer avance avec son cercle d'horizon. Donc, grâce au succès de ce livre, Anita va s'appuyer sur cette double réputation maintenant, une réputation dans le milieu maritime, avec le succès de ce livre, une réputation qui s'installe un petit peu dans le monde parisien littéraire et qui va au-delà, auprès d'un plus large public, je dirais, à l'époque. Et Anita, encouragée, stimulée, va continuer non plus maintenant à répondre à des missions qu'on lui donne, mais elle s'invente ses missions. En plus, c'est bien pratique. C'est quelqu'un quand même d'un petit peu indépendante, qui échappe un petit peu au cadre de toute façon par son comportement, par le fait qu'elle a aucun diplôme, qu'elle n'a pas de méthode particulière. Voilà. Elle suit sa rêverie, qui est une rêverie qui cherche à répondre à des questions de fond. Et elle est encouragée par le succès de ce livre qui vraiment la révèle auprès d'un plus large public, au-delà du monde maritime, on va dire.
Alors, Racleur d'océan, dont je me souviens très bien, la description de la mer est partout présente. Et c'est vraiment ces stries, ces plis, ces couleurs, comment elle se hausse et s'abaisse, son volume, la manière dont elle vit sous le ciel, dont elle est habitée par les oiseaux, ce qu'elle entend. C'est assez fascinant, la description de la mer dans ses livres, qui est quand même un topos littéraire sur lequel il y a quand même beaucoup de textes. Elle est d'une précision formidable et elle a un regard vraiment extraordinaire sur la mer comme force organique au sein de laquelle le bateau trace sa route. Hein.
Le capitaine n'a pas d'ordre à crier. Il fait nuit. Le vent passe à 30 milles, classé. Personne ne sent le froid. Il faut finir de ramasser le poisson et aller vite. Ça forcit. Les manœuvres dormantes se couvrent de glace. L'amarrage du cul de chalut résiste. Les gars bondissent. Il faut se garer des masses d'eau, sauver le poisson. À la seconde présente, c'est l'affaire des hommes. Leur affaire à eux seuls. Après, si la tempête continue à forcir, c'est l'affaire du bateau. Chacun la sienne. Les gars se grouillent. L'eau gicle. Les morues qui attendent à l'air sont comme des morceaux de cailloux. C'est gelé, raide. Le ciel s'est éclairci. Les vents chassent les nuées. Alors, de l'horizon à gauche, qui est à l'ouest, jaillit une fusée. Elle monte et se courbe. C'est un point d'interrogation. Il brûle d'un feu froid, vert. Marionnette, disent les hommes. Venue de droite, d'autres flammes ont jailli. Elle monte vers le zénith. Au ras de la planète, nous sommes sur un océan noir de colère. Et au-dessus de nous se déchaîne un jeu céleste. Toute la nuit, les plus classiques phénomènes d'aurore boréale ont couru dans l'air glacé. Dessous, giflés d'eau, secoués de vent, les hommes travaillaient à réparer le chalut. Canard, un des mousses, s'était durement écorché la main. Il riait, orgueilleux. « Pas la peine de pansement, dit-il. Le sang se caille avec la glace. » Et il rechargeait les aiguilles, coupait les amarrages. Face au projecteur, le capitaine releva son visage. Et tous, même ceux des garçons de 16 ans, se marquaient de ces rides profondes, celles de l'effort contre soi-même, contre le froid, le sommeil.
« Racleur d'océan, c'est, à mon avis, c'est un livre extrêmement puissant qui est comme un espèce de carottage d'un lieu, c'est-à-dire qu'elle rentre et qu'elle va tout décrire.
Maïlys de Kerangal.
Et c'est très impressionnant ce qu'elle ramène à la surface de la page. Hein. C'est-à-dire, ce sur quoi elle insiste beaucoup, c'est que c'est un, ces bateaux qu'elle, voilà, qu'elle saisit comme des mondes clos, qu'elle va complètement, presque radiogriffer, dont elle fait aussi la chambre d'écho d'un monde et d'un imaginaire marin. C'est que sur le bois rosé, donc, il y a quand même la présence de la mort et des gestes violents que sont voilà, cette pêche à la reine des mers, quoi, la morue. Et puis ce qu'elle montre aussi, c'est les phases d'attente. Parce que ce qui est fascinant dans Racleur d'océan, c'est qu'elle raconte réellement tous les moments de cette campagne de pêche et les moments où justement on attend et puis on choisit sa route, on piste les bancs, etc. L'angoisse qui n'est pas que liée, alors là pour le coup, au danger de la mer, mais l'angoisse de la pêche. Qu'est-ce qu'on va rapporter, comment on va s'en sortir, qu'est-ce qu'on va trouver, qu'est-ce qu'on va ramener. C'est, il y a une pression, je trouve, que l'on sent très bien dans le livre.
Nous ne pêchions plus, nous étions à Terre-Neuve. Et il y avait 8 ou 10 jours qu'on ne pêchait plus.
Anita Conti, L'échappée belle, 1984.
Or, nous avions un capitaine extrêmement intelligent. Ce capitaine m'a dit, entre minuit et 4 heures du matin, « Madame, il faut nous sortir de là parce que ça va mal. L'équipage est enragé. Il y a des concurrents qui sont à 200 milles de nous. Ils pêchent beaucoup. Leurs cales s'emplissent. Nous ne pêchons pas. Nous ne pouvons pas faire 200 milles dans la nuit pour les rejoindre. Et moi, je sais, d'après mes informations notées sur mes carnets, que les courants seront bons d'ici très peu de jours. D'ici 2-3 jours, peut-être, on va les avoir, les morues. Donc, il faut les prendre, mais il faut calmer l'équipage. Alors, j'ai une idée. En ce moment, nous pêchons des pèlerins et des apocales. C'est le requin des mers froides qui arrive à 8-10 mètres. Tarquin, moitié endormi. Et quand il y a des apocales, il n'y a plus de morue. Et le capitaine m'a dit, voilà, le prochain apocale qu'on pêche, vous allez rentrer dedans, c'est la belle qui va être avalée par la bête, on va prendre le cinéma et je vais vous délivrer. Le prochain apocale est allé le long du bord. Il y avait une belle houle de 3 à 4 mètres, c'est-à-dire c'était doux comme du velours. Le navire se balançait doucement. On a le requin par la queue. Il y avait très peu de morue dans les parcs. Et il y avait 40 hommes qui grognaient, y compris ceux de la machine qui n'étaient pas contents non plus. Alors ça faisait plus de 40 hommes. Bon, le capitaine demande au second de l'équipage, le second arrive avec un grand coutelas, il fend le ventre du requin qui était allé le long du bord, mais très haut, à 4 ou 5 mètres, parce que c'était une grande bête. Alors, à ce moment-là, le bateau s'est mis à rouler, il est sorti. Les foies, qui faisaient au moins 300 ou 400 kilos, l'estomac qu'on a crevé, qui a dégouliné jusqu'à 5 mètres, on a vidé la bête comme un magasin, puis deux hommes m'ont pris sous les bras et m'ont hissé et entré dans le requin. Mais à ce moment-là, le bateau a roulé un peu plus fort, la fente qui s'était ouverte parce que le capitaine avait ouvert le ventre du requin, la fente s'est rouverte. Et au roulis du navire, à pleine volée, les quatre fers en l'air, j'ai été balancé à 4 ou 5 mètres et étalé sur le bois du pont, parmi les morues, glissé, couverte de sangouin, parce que tout ce qui était dans l'intérieur de la bête m'avait dégouliné dans les yeux. Alors, je me relève et moi, puisque j'étais de service pour le cinéma, je souris. Mais imaginez un monstre couvert de sang, couvert d'huile et de saloperies variées, souriant devant 40 hommes qui attendaient le tableau. Ils ont été pris d'un tel fou rire d'horreur. J'étais tellement sale, tellement dégoulinante de sang, que les hommes ont tellement ri qu'on m'a rattrapé par les épaules, on m'a rentré dans le requin, on m'a ressorti par l'autre ouverture. Et la réussite a été tellement magnifique que 48 heures après, le capitaine avait raison. Les hommes avaient ri de tout leur cœur. On a changé un peu de lieu de pêche, on a ramené 5 tonnes de morue, tout le monde était content.
Anita Conti invente le mot « sangouin » pour parler de la porcherie qui contient le jus des viscères de poissons, leur sécrétion, l'humus de leur peau, la pluie et l'eau de mer, les traces de mazout. Elle parle d'un abattoir à ciel ouvert. Laurent Giraud-Conti.
Oui, c'est ça qui différencie ces deux livres, Carnet Viking et Racleur d'océan, c'est que le mot sanguin n'apparaît pas dans Carnet Viking, il apparaît dans Racleur d'océan. Et c'est un mot qui resserre l'eau de mer, qui resserre le sang, qui resserre ce jus de tripes, qui resserre la pluie, qui resserre peut-être même un peu de gasoil, un peu de jus de charbon, parce qu'on est sur un morutier, il y a aussi du charbon. Enfin bref, c'est ce liquide, le sanguin, c'est un mot qui est magnifique, qui exprime toute la brutalité, la dureté, l'horreur même un petit peu. Les racleurs d'océan, ça veut bien dire ce qu'on veut dire. Ce qui est exprimé, c'est qu'on met des chaluts, et on racle la mer, on ramène ce qu'on peut. Donc on va faire ça à fond les ballons pendant des décennies, parce que du bateau à la voile, on est passé au bateau vapeur, donc on va beaucoup plus vite. Du bateau vapeur, on passe au bateau diesel, avec les nouvelles techniques des radars, des sonars, etc. Donc on surexploite l'océan jusqu'aux années 80, où le Canada va réagir pour fermer les eaux territoriales à la pêche à la morue.
Histoire de la morue de Terre-Neuve, évidemment, sont des bateaux qui sont déjà des bateaux industriels.
Claire Nouvian.
Et on est dans des conflits parfois violents entre différentes nations pour avoir accès à cette ressource absolument incroyable, comme tombée du ciel, qu'est la morue, enfin le cabillaud. Donc des poissons géants, en fait, puisqu'ils pouvaient faire jusqu'à 2 mètres à l'époque, les cabillauds. Et donc ça, c'est cette grande aventure humaine, en fait, où on voit que quand on est dans une exploitation très dense, avec un nombre de bateaux de part et d'autre de l'Atlantique qui ne fait qu'augmenter par rapport à cette ressource qu'on cible, qui vaut cher, hein, et qui est structurante pour les économies. La morue est structurante, ça sert de monnaie d'échange, y compris dans la traite négrière. Enfin, vraiment, on a du mal à se rappeler ça, mais on est dans quelque chose qui est structurant pour nos économies. Et donc, on est dans ce moment où on voit augmenter la pression. Et à chaque fois que la ressource décline, on va compenser le déclin des populations par de la capacité technologique, par de l'innovation. Et on voit bien que ce sont des cycles d'innovation technologique qui permettent de resserrer l'étau sur ces populations de cabillauds qui finissent par s'effondrer, comme vous savez, en 92. Et ce qu'on ne savait pas, et la science ne le savait pas, ne savait pas faire ça, parce qu'il y avait quand même des chercheurs qui travaillaient sur les dynamiques de population de cette pêche, qu'on s'est quand même demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'effondrement ait lieu sans qu'on ait pu le voir venir? Et donc ça a donné lieu à une série de publications scientifiques vraiment intéressantes qui montrent que les effondrements de population se font parfois sans crier gare. C'est-à-dire qu'on peut avoir une augmentation constante parce qu'on regarde des captures par unité de pêche. Et on voit qu'en fait, leurs captures augmentent ou sont stables, par exemple. Et donc ça, en fait, on se rend compte que ça ne dit rien de l'état de la population si on ne joint pas ces informations à une carte de l'endroit où se produit la pression de pêche et du nombre de bateaux. Ce qu'on a compris après coup, c'est qu'en fait, il y avait une contraction du stock. Et donc, on a fait le lien entre, en fait, la dynamique de ces navires qui ont suivi là où la morue allait se réfugier dans le dernier coin du nord-est de l'Atlantique, traqué par les hommes. Et on s'est rendu compte, donc, a posteriori, qu'on l'avait vraiment acculé à un coin. Et qu'en effet, jusqu'au dernier moment, on pouvait avoir des captures par unité qui étaient stables. Et on n'avait pas vu qu'en même temps, les individus en taille se rétrécissaient. Et donc, ce sont des indicateurs de se rendre compte que la taille des individus baisse, qu'on va pêcher de plus en plus profond, qu'on va pêcher finalement dans un coin qui est de plus en plus resserré. Donc, voilà, on était évidemment dans une époque où on ne connaissait pas ça. Et on avait encore cette impression que cette manne quasiment miraculeuse, presque biblique, il y avait des textes, hein, évidemment, Michelet, etc., qui nous parlaient d'une telle abondance des poissons que c'était comme si on pouvait quasiment marcher sur eux dans la mer. Voilà. On était imprégnés de cette vision de ressources qui étaient inépuisables. Et les morues ne sont toujours pas revenues. On a tellement transformé l'écosystème que les morues ne sont toujours pas revenues dans l'Atlantique Nord.
Le navire, soigné par tous les membres de l'équipage, forme un corps vivant qui n'a qu'une passion, c'est vouloir réussir. Réussir, c'est rapporter, pour des marins de la pêche, eh ben, c'est rapporter des cales pleines. On rapporte tout ce qu'on peut, on pille tout ce qu'on peut dans la mer. Mais alors, ça attire maintenant des prévisions pour l'avenir qui sont tout à fait bouleversantes. Aujourd'hui, après 20 ans d'observation méthodique par tous les navires de toutes les stations de recherche scientifique du monde entier, on arrive à cette conclusion assez inquiétante, c'est que l'océan est vulnérable, que les espèces marines ne se reproduisent pas d'une manière considérable, et que si vous faites des ponctions trop profondes, trop puissantes, trop importantes dans des masses animales, le renouvellement ne s'effectue pas. Alors, comme l'accroissement numérique accéléré de l'espèce humaine nous fait espérer qu'on tirera beaucoup d'aliments de l'océan, eh bien nous avons en même temps, après la recherche scientifique de ces 20 ou 30 dernières années, la certitude que l'océan ne peut pas répondre à nos espoirs si nous continuons à piller l'océan d'une manière sauvage.
Entre ces deux expériences avec les Terre Nova, Viking en 1939 et le Bois Rosé en 1952, Anita Conti ira jusque dans les mers chaudes au large de l'Afrique. Laurent Giraud-Conti.
Elle décide de s'y installer. Elle va arriver sur la Guinée où elle va installer des pêcheries. Et surtout, elle va étudier d'abord les pêches traditionnelles, voir comment tenter d'améliorer le... Parce qu'il y a des poissons tabous, il y a des périodes où il faut pas pêcher. Enfin, il y a des croyances qui font que des potentiels nourriciers ne sont pas exploités pour les populations, non pas pour faire de l'industrie. Il n'en est pas question. C'est pas du tout dans l'esprit d'Anita à l'époque. Mais comment répondre à des besoins locaux. Donc, elle va étudier ces pêches traditionnelles en fonction des croyances locales, et ensuite elle va tenter de les améliorer par des techniques de salage, de séchage. Et elle va installer quelques pêcheries, qui est un travail qui va évidemment échouer parce qu'il n'y a aucune rentabilité qui est visée. Et puis elle sent aussi le vent tourner, la fin des colonies, les revendications des populations locales à acquérir leur autonomie. Et plutôt que de se sentir très abandonnée, frustrée de ne pas pouvoir continuer ce travail, elle abandonne l'Afrique. Début des années 50.
J'ai lu des choses sur cette période, j'ai regardé les photos toujours tout aussi extraordinaires.
François Sarano.
Ces clichés qui sont des témoignages uniques au monde. Donc j'ai vu ces photos ramenées de ces campagnes africaines et l'une d'elles m'est restée. C'est une photo sur laquelle on voit depuis la plage, donc on regarde vers la mer, mais sur cette plage... et sont tirés une dizaine de requins-tigres, dont les plus gros avoisinent probablement 6 mètres. Et la légende de la photo, c'est « retour de pêche à la pirogue ». Incroyable. Un seul requin-tigre aujourd'hui de 3 mètres ferait la une des journaux. Et donc ce témoignage montre que à cette époque... La mer était d'une richesse invraisemblable, parce que pour banalement ramener d'une petite pêche à la pirogue autant de requins-tigres aussi gros, voulait dire deux choses. D'abord qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands requins, de grands poissons, et que l'écosystème était suffisamment riche pour supporter tous ces grands prédateurs. La présence des grands prédateurs signe le bon état de santé de l'écosystème. Et lorsqu'en plus, on a des grands prédateurs âgés, ça veut dire que l'écosystème était quasiment vierge. Et c'était quand ? Il y a 50 ans, 60 ans, on tombe par terre. En 60 ans, on a tout détruit. On a tout détruit. Et ces témoignages-là, parce qu'ils sont photographiques, comme d'ailleurs les films qu'a pu faire Cousteau à cette époque, nous ramène dans le dur, dans la réalité. Avant, c'était des récits faits par des pêcheurs que l'on croyait plus ou moins. Oui, oh, il déraille le vieux. Non, là, c'est du dur. On voit, c'est concret. Voilà pourquoi les témoignages d'Anita Conti, au-delà de l'extraordinaire beauté des choses, mais ce sont des témoignages indubitables qui disent, OK, ben voilà ce que c'était.
En 1946, Anita Conti a bientôt 50 ans lorsqu'elle ouvre cette pêcherie de requins à Conakry, en Guinée. Elle s'est intéressée auparavant aux hommes, aux pêcheurs, des mers du Nord, des mers du Sud. Elle se tourne désormais vers les bêtes qui peuplent ces mers, ces géants des mers chaudes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce bestiaire, Laurent Giraud-Conti ?
Le bestiaire d'Anita. Je me le représenterai comme un totem, un grand totem. Il y aurait le requin-tigre, évidemment. Il y aurait les diassanes. Alors les diassanes, c'est un mot vernaculaire, comme on dit. Inventé par qui ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il désigne ces poissons-ci. Ce qui est une espèce de requin, avec cette grande dent griffée de milliers de dizaines de petites dents. Donc ce poisson-ci, qui est un animal qu'Anita a vraiment vénéré, elle a élevé même des petits alevins, elle le prend en photo sous toutes les coutures, elle avait plusieurs rostres qui encadraient ses miroirs à la maison. Alors comme elle me disait, ça j'ai pas acheté ça en brocante, hein, c'est conquis sur le terrain. Et alors évidemment avec une sorte de fierté brutale, parce que c'est la tuerie, hein, on a tué ces animaux, elle a scié les rostres. Mais en même temps avec une sorte de une culpabilité, et en même temps voilà, elle navigue toujours sur cette crête cruelle de la vie où on tue l'autre pour se nourrir ou pour des fois le simple plaisir, et en même temps en contemplant que cette tuerie est absolument absurde et en démontrant que l'excès de tuerie va créer des problèmes. Parce que dès les années 30, elle dénonce la surexploitation des océans. Et en faisant ce travail, elle exprime clairement son sentiment d'y participer en même temps. Et en même temps, elle admire la brutalité des pêcheurs. Et donc, le totem de ces animaux africains lui permet de révéler ça. C'est-à-dire que la morue est un animal grégaire. On ne peut pas s'identifier à une morue, mais un requin de 3 mètres de long, tout d'un coup, devient un personnage. Et donc, à travers ce totem-là, on peut s'interroger sur sa condition, et elle s'interroge véritablement. Dans l'océan, les bêtes et l'homme, elle décrit un requin, elle le décrit scientifiquement, elle l'approche, elle nage à ses côtés, elle fait tout l'historique, ses références, Gunnar, etc. Et puis tout d'un coup, c'est elle, le requin. Elle dit plus « il », elle dit « je ». Elle devient le requin, elle prend ses yeux, et on navigue avec lui, on nage avec lui. Et elle nous emmène dans un univers, alors qu'à l'époque, la plongée sous-marine n'était pas encore inventée. Grâce à elle, on voit sous l'eau, on voit avec les yeux d'un poisson, là en l'occurrence un requin. Donc ça, c'est vraiment ce basculement où elle ne s'épargne pas, elle sait qu'elle participe à cette brutalité, mais accédant à cette brutalité, elle accède aussi à la brutalité de l'animal, qui n'est pas tendre non plus, et elle s'identifie, et grâce à ça, elle nous emmène avec elle à une époque où personne n'allait sous l'eau.
Ce qui m'impressionne chez Anita Conti, chez Cousteau, chez des gens comme ça, c'est que ce sont des gens de terrain. C'est pas des philosophes de bureau, c'est pas des intellectuels, mais c'est des gens qui ont construit leur philosophie, qui ont construit leur connaissance en allant plonger, en allant sur les bateaux, et c'est des gens qui ont analysé ça et ont forgé une philosophie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est juste des gens qui analysent des données, qui ne connaissent plus le terrain, ou qui supputent, sont des intellectuels de bar. Voilà. Je pense que la césure se fait avec cette accélération des communications et des moyens informatiques qui font qu'on ne prend plus le temps. Le temps, c'est la dimension du temps qu'on a sur les bateaux. Quand on fait la traversée du Pacifique avec Calypso, c'est long, c'est des jours et des jours et des jours de mer, la mer à l'infini, juste les poissons volants qui s'envolent à la proue, des heures et des heures à réfléchir, et Anita Conti, des jours et des jours, des mois dans la tempête, dans la brume, dans le calme plat, dans les lents, on recevait le courrier tous les mois. Ce temps-là qui permet le mûrissement, Anita Conti l'a vécu, Cousteau l'a vécu, nous-mêmes sur Calypso, on n'avait ni téléphone, ni courrier pendant 3 mois. On avait de temps en temps le ti-ti-ti-ta-ta-ta-ta-ti-ti-ti, quelques échanges en morse, donc 3-4 mots, c'était formidable. Eh bien, le temps du mûrissement est quelque chose qui permet de mesurer la vie. Et Anita Conti l'a fait mieux que quiconque. Le poisson-ci. Là encore, témoignage incroyable. Il faut voir les photos qu'elle a ramenées. Hallucinant. Hallucinant. Aujourd'hui, l'espèce n'existe quasiment plus. La mer ne peut plus suivre. Hein, on a passé par un pic formidable en 1989 où on a sorti 86 millions de tonnes de poissons marins dans le monde en un an. Et depuis, le déclin. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et c'est ce dont témoigne Anita Conti.
Ouais, je crois que...
Elle a vu juste. Elle a vu juste... Mais elle n'a pas été suivie.
Ben ouais, on a très mal géré.
Claire Nouvian.
Nous voilà partis sur une perspective d'apocalypse. Je pense qu'elle devait être très loin de s'imaginer que le changement climatique allait aussi écraser simultanément notre trajectoire et nos perspectives d'avenir, en même temps que l'érosion de la biodiversité, la grande crise du vivant. La perte des espèces. La conscience est là. On sait, il y a une exposition très bien au musée Victoria and Albert Museum à Londres qui montre le prix de la mode sur la nature. Ce qu'il en a coûté à la nature de nous mettre des jolis petits boutons nacrés sur les costumes des hommes 18e, des plumes sur les chapeaux des dames. Et voilà, il nous en a coûté les espèces, il nous en a coûté la pollution des fleuves et des rivières et des mers. On a toutes ces informations. On a le GIEC qui nous dit, d'ici 2030, si vous n'avez pas tout changé, c'est l'apocalypse. La grande question, c'est est-ce qu'on est capable maintenant de se réveiller, de croire à la catastrophe et d'agir en fonction? Est-ce qu'on va être capable de se réveiller avant qu'il soit trop tard?
Crépuscule de sa vie, elle renoue avec la Bretagne, Douarnenez. Vous passez ce temps auprès d'elle, à trier la masse documentaire accumulée au cours de sa vie, à naviguer aussi. Quelle est la couleur des souvenirs de cette période, Laurent Giraud-Conti?
Alors, une couleur variable, comme ses yeux, du gris au bleu, et comme la mer, par temps clair c'est agréable, par temps sombre ça peut être exaltant, mais ça peut être un peu tragique. Et on partageait à la fois cette joie, parce que c'est, pour moi, c'était la joie d'une rencontre extraordinaire, évidemment. Anita a donné les mots, apporté un... J'étais autodidacte, et tout d'un coup, elle a apporté l'expérience d'une vie. Mais par ailleurs, j'ai découvert aussi... eh bien, personne sensible, une femme, qui a eu affaire à des résistances... dont elle ne nous épargne les affres du combat qu'elle a mené, ça j'en suis certain, malgré tout ce qu'elle peut nous faire croire avec son élégance. J'ai découvert le sens de la tragédie aussi, dans tout ce que ça a, des pics, de chevaleresque, de donchicotesque aussi. Tout d'un coup, j'ai découvert que chaque existence a une tragédie en soi. L'existence est une tragédie. Et Anita... à travers cette expérience maritime dont elle nous traduit le monde, il y a aussi une autre quête qui est derrière ça, la quête de l'insaisissable, comme l'eau, comme la mer. La quête de la solitude, un navire avance avec son cercle d'horizon, on peut dire la même chose d'un homme, chaque homme dans la vie avance avec son cercle, et les cercles se croisent, mais chacun a son sien, et voilà. Il y a toute cette métaphore comme ça qu'Anita m'a transmis, dont elle m'a transmis les notions, d'une manière rigolote, d'une manière talentueuse, d'une manière exaltée ou d'une manière tragique par moments. Et voilà, c'est la rencontre de ma vie. J'ai réussi, là je parle de moi, tout d'un coup, vraiment, avant que je connaisse Anita, on est en 72 ou 73, mes parents m'ont jamais amené au cinéma, mais moi je les ai amenés une fois au cinéma. Pour voir quoi? C'est incroyable, Harold et Maud. Voilà. C'est une histoire d'amour avec un accident chronologique, hein, clairement. Quand je dis ça, j'en dis trop, mais... Bon, voilà.
Elle s'éteindra un soir de tempête au plus proche des pêcheurs et de la mer.
Oui, j'ai passé de nombreuses nuits aux côtés d'Anita. Mon lit, mon canapé était en face de son lit, dans la même chambre. À Douarnenez, ce soir-là, Anita est quand même malade depuis quelques semaines. Des amis, par gentillesse, me proposent de passer quelques heures avec eux, de m'échapper de cette contrainte. J'hésite, j'accepte, je rentre, il est 11 heures, je m'endors. Et je me réveille, mais pas elle, voilà. Et Anita Conti, la dame de la mer, disparaît à ce moment-là. Sur des flots immensément pareils et sans fin dissemblables. Vers les horizons qui reculent, vers les étoiles qui vont naître, vers l'infini du bleu qui va noircir un navire emporté jusqu'au bord du ciel. De ses parois de fer, il déchire les eaux, et moi, en lui, prisonnière. Là, c'est un texte, il y a toute la tragédie, il y a toute la condition humaine qui est là-dedans. On est tous prisonniers d'un navire, de son existence. Et on ne sait pas vers quoi on va, aussi bien les étoiles qui vont naître que l'infini du bleu qui va noircir. Mais on y va, on avance, avec son cercle.
On l'entendait de loin s'écraser contre terre, écumé de colère d'être ainsi rejeté, au pied de pauvres dunes sur d'indignes rochers, lui pourtant si puissant, pourtant si volontaire. On courait sur les dunes et il apparaissait, et parfois il daignait nous couvrir d'écume. Un de ces jours bleu-gris où sa colère montait contre la terre et les humeurs de la lune, l'océan.
Anita Conti, La Dame de la Mer. Un documentaire de Camille Jusot et Yvon Croisier. Avec Laurent Giraud-Conti, fils adoptif d'Anita Conti, Maïlys de Kerangal, écrivain, François Sarano, océanographe, Claire Nouvian, militante écologiste. Prise de son, Yann Frécy, Archivina, Sabine Dahuron, extrait de Racleur d'Océan, lu par Bernard Alouf. Bibliographie sur le site de France Culture. Une vie, une œuvre. Attachée de production, Pascaline Bonnet. Coordination, Christine Bernard.
Si ma ligne de vie venait à se casser, j'aimerais pour finir avoir encore le temps de monter sur la dune et le voir écumer. J'aimerais pour finir regarder l'océan. Comme lorsqu'on courait et qu'il apparaissait, et qu'on criait de joie, ivre de sa colère. On ne le craignait pas et nous en étions fiers. C'était la même colère.
Tous les producteurs et réalisateurs qui vous ont offert ces portraits d'hommes et de femmes d'exception de cette année 2018 vous souhaitent une douce et sereine fin d'année à l'écoute de France Culture. Pascaline Bonnet fait de la page internet d'Une Vie, Une Œuvre et moi-même. Nous vous retrouvons très vite en 2019.